Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Et oui, variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec son président Hervé Delouche, qui est aujourd'hui avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy, bonjour à tous.
Voilà, il est bien là. Alors, au sommaire de ce Variation en noir numéro 11, ou numéro 1 de la saison 2, comme on dit aujourd'hui, et d'ailleurs grand merci à Bernard qui nous héberge toujours aussi gentiment dans son émission pour cette deuxième année, au sommaire de ce Variation en noir, donc pour ce dernier vendredi du mois de septembre 2014, un gros plan sur le numéro 119 de la revue 813, et ce gros plan est Hervé nous permettra aussi un retour sur un roman que nous avons lu et apprécié avant l'été, Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu, aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noirs.
Absolument. Alors quand même, avant toute chose, je voulais te remercier Guy, parce que j'ai passé une très agréable soirée grâce à toi, parce que je n'avais pas vu les deux premiers épisodes de la série, mais j'ai regardé les deux derniers de Petit Quinquin de Bruno Dumont, et eh bien tu avais été de très bons conseils, voilà, j'ai trouvé cette série qui se passe dans le Nord, dans le Boulonnais, que ça changeait radicalement et très agréablement des séries françaises qui usent jusqu'à la moelle les stéréotypes du polar et sont de pâle figure à côté de séries américaines. Et là, on était vraiment dans autre chose et c'était à la fois doux, amer parfois, mais également très cocasse, burlesque. Enfin voilà quoi, voir une bagnole de gendarmerie démarrer sur les chapeaux de roue et tourner en s'enlisant dans les sables, voir un commissaire qui répond à son adjoint que bah non, on va pas arrêter le suspect puisqu'on est le 14 juillet et que c'est sacré, enfin bon, et puis l'atmosphère surtout.
Et pour la petite histoire, Hervé, le lieutenant de gendarmerie qui pilote la voiture,
oui.
C'est un acteur amateur, hein, comme tous les acteurs de cette série de Bruno Dumont. Et,
oui.
Et avant le tournage, il n'avait jamais conduit de voiture, il n'avait pas de permis. Hein, donc il a suivi un stage intensif de mais, ça se remarque. Mais écoute, très, très, très heureux que tu aies apprécié cette série. Bon, on en parle beaucoup dans le Nord parce que elle est quand même critiquée par un certain nombre de nordistes qui voient une caricature un petit peu de notre région, mais je pense qu'il faut dépasser cette caricature. Pour moi, c'est du Charlot au pays des ch'tis, Charlot et le Kid.
Tout à fait. Après, il y a également, évidemment, c'est très cru, mais c'est peut-être aussi ce qu'il faut saluer, c'est-à-dire qu'il y a également une certaine tendresse aussi, il y a un vérisme, enfin bon, voilà, je trouve non plus que c'est justement, alors autant je considère qu'un film absolument catastrophique comme Bienvenue chez les Ch'tis, enfin, et là, alors là, une caricature lamentable en dehors du fait que c'est au bout d'un quart d'heure, c'est plus drôle du tout, mais autant j'ai pas, là, je trouve que c'est extrêmement subtil et tout en nuance, et puis par ailleurs, c'est extrêmement drôle et pas du tout au dépens des personnages, mais notamment le commandant lui-même, Pruvost, je crois, il est.
C'est à voir. Alors moi j'ai vu que les deux premiers épisodes, pas les
deux. Moi j'ai vu les deux derniers, donc voilà. On a chacun rattrapé du retard.
Voilà. Et puis ce que je te propose, c'est qu'on y revienne parce qu'il y a quand même une histoire policière hein,
dans
cette série. Donc on se donne rendez-vous dans un mois pour en reparler.
Quand on aura complété notre collection.
Voilà. Alors donc je termine le sommaire. Hein, donc au sommaire aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Un gros plan sur le numéro 100. 1919 de la revue 813, un retour sur Aux animaux, la guerre de Nicolas Mathieu, et quant à la rentrée littéraire 2014, très riche comme d'habitude, et aussi dans les noirs rayons du noir, eh bien nous avons choisi de parler aujourd'hui de Deep Winter de Samuel W. Gailey. C'est bien ça, Hervé ?
Je crois bien que c'est ça.
D'accord. Alors, on attaque tout de suite avec le numéro 119 de la revue 813. C'est la revue, enfin, la revue des amis des littératures policières et tradition oblige. Donc, c'est le président de l'association qui signe l'édito. Alors, un mot sur cet édito où tu mets régulièrement en valeur un ouvrage. Donc là, tu reviens sur un livre qui est important pour toi.
Oui, ce livre, c'est un livre qui est paru chez un petit mais excellent éditeur de Toulouse, qui fait des romans et beaucoup de documents ou de récits historiques, qui s'appelle Anacharsis. Et le livre s'intitule Krimi. Krimi, c'est le nom du roman policier en Allemagne, hein, le criminal roman. Et ça s'appelle Krimi et c'est sous-titré une anthologie du récit policier sous le Troisième Reich. Et il y a toute une série de textes d'auteurs qui ont publié sous le Troisième Reich, d'auteurs de polar, et tout cela est introduit à chaque fois par par des textes de Vincent Platini, qui est l'auteur de cette anthologie, et qui connaît très bien son sujet, et qui sont des textes tout à fait éclairants, d'abord sur le fait, déjà on ne parle pas tellement, pas tant que ça du polar allemand en France, mais en dehors de cela, ça tord le cou d'entrée de jeu à une idée un peu reçue qui est que le roman policier n'aurait pas existé comme on était sous la dictature, le roman criminel n'aurait pas existé en Allemagne. Or, c'est une totale erreur, puisque il y a 3000 titres qui sortent entre 1933 et 45, il y a une production considérable, et il y a une demande extrêmement forte du public et un marché florissant. C'est intéressant parce que l'image qu'on a bien évidemment du Troisième Reich et du nazisme, je crois que je le dis dans l'édito, mais on connaît tous l'image de cette autodafé de 1933 à Berlin, où les livres d'un certain nombre d'auteurs sont brûlés, enfin il y a un autodafé géant en public, voilà. Ce qu'il y a, c'est que le Reich détruisait ainsi, symboliquement et dans la pratique, les œuvres, j'allais dire, de ce qu'il considérait comme de... Enfin, qu'il méprisait et qu'il voulait détruire, mais ce qu'on considérait comme de la haute littérature. Il est bien évident, comme Thomas Mann ou Heinrich Mann, enfin, etc., etc. Mais paradoxalement, en gros, le fait que le roman policier, le roman criminel, le crimi, soit un roman mineur, plutôt dédaigné, de masse, mais dédaigné, lui a laissé une certaine liberté. C'est-à-dire que, d'abord, la production était telle qu'on risquait pas de s'attaquer à tel ou tel livre, mais la censure s'y est donc pas tellement exercée parce que, c'était un genre dont le kitsch aurait souillé le nazisme, et donc, c'était un peu une sorte de laisser-faire.
Mais
voilà.
Hervé, ça s'appelait déjà, sous le Troisième Reich, le roman criminel roman ou, oui.
Ça s'est toujours appelé comme ça. Hein,
c'est étonnant quand même, parce qu'on s'imagine plutôt à entendre parler de roman policier sous ce régime, plutôt que roman criminel qui sonne complètement autrement que roman policier.
Oui, mais alors, il y a d'autres paradoxes, c'est que ça s'appelait déjà, ça s'est toujours appelé criminal roman en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mais c'est le nom générique, comme dans d'autres pays, il y a d'autres appellations. Mais voilà, le paradoxe, c'est que par exemple, comme pour aller dans le sens de ce que tu disais, le roman policier allemand, donc, va surtout mettre en valeur dans ces années-là. Enfin, il y a des formes très diverses hein, qu'on découvre grâce à cette anthologie, mais va beaucoup mettre en roman des enquêtes assez minutieuses qui mettent en avant le travail de la police, mais qui concernent souvent, qui peuvent concerner des délits un peu mineurs, parce que le crime est censé avoir été éradiqué. Voilà, comme tu disais, le crime n'existe pas puisque l'Allemagne est purifiée. Hein, l'auditeur mettra tous les guillemets qu'il veut, hein, bien évidemment. Mais c'est la formule qu'emploient les tenants du Reich. Et par ailleurs, ce qui fait que une des ruses ou pas, mais ça pourra parfois l'être, des auteurs qui publieront dans cette époque, sera de faire se dérouler leurs récits dans des pays, par contre, qui sont toujours contaminés par le crime,
oui,
comme les États-Unis, évidemment,
bien entendu,
mais
oui.
Ce qui amènera également une part d'exotisme et une part de rêve dans le Reich allemand. Les gens découvriront les mots américains, enfin voilà, les espaces américains, les lieux urbains, voilà. C'est une chose. Il faut aussi dire quand même, parce que parfois on ne se l'imagine pas, parce que on sait très bien ce qu'est le nazisme, mais la société nazie, le Reich, c'est aussi une société de consommation, c'est une société de loisirs, et le même Goebbels qui a été à l'origine de la purification littéraire et philosophique dont l'autodafé est un exemple, le même Goebbels encourage la production de ce roman policier parce que en gros il faut que les masses puissent se distraire, et y compris quand la guerre fait, d'autant plus quand la guerre fera plus rage sur le front de l'Est, la production sera encouragée et des romans policiers seront envoyés aux soldats massivement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment dans cette production, et l'anthologie en rend compte, il y a de tout, c'est-à-dire que il y a des auteurs qui sont alignés, mais enfin ça se sent plus ou moins dans leurs textes, qui sont avant tout des divertissements, mais qui font passer parfois l'idéologie du régime. Mais il y a aussi des auteurs où en fait dans le texte on a un mélange des choses, c'est-à-dire que on a des échappés, on a un appel d'air sous un régime évidemment
de la subversion.
Voilà, ça peut aller jusqu'à. C'est en tout cas, il y a une certaine, comme dit l'auteur, c'est une belle formule, il y a une contrebande littéraire, et il y a aussi des auteurs qui s'en emparent et qui, par diverses manières qui seraient longues, je vous invite vraiment à vous procurer ou à regarder ce livre en bibliothèque, Crimi, mais il y a des auteurs qui s'en emparent et qui vont effectivement y faire passer assez subtilement des choses qui vont de l'irrévérence à la subversion. Oui.
Alors, donc, Vincent Platini, Crimi, une anthologie du récit policier sous le Troisième Reich, aux éditions Anacharsis.
Absolument.
Alors, Hervé, on ne va pas pouvoir s'arrêter aussi longuement sur chacun des articles du numéro 119 de la revue 813, hein, que nous vous invitons bien sûr à parcourir. Ça peut se faire sur le blog, hein, je pense, de 813. On peut retrouver les articles.
On peut retrouver des choses, mais enfin, la revue.
Et la revue,
cas,
sinon,
elle est,
en bibliothèque.
Elle est consultable que sur papier.
Sur
quand
papier,
même.
Hein, donc en bibliothèque ou bien la commander à 800.
Voilà, sur le blog, il y a par contre toutes les infos.
Alors, au sommaire, rapidement, de bonnes feuilles de la rentrée, c'est-à-dire en avant-première des extraits de l'alphabet du polar, donc de Bourlinguer du polar français à la plume, Jean-Bernard Bouy et Marc Villard, hein, publient très prochainement aux éditions.
Inuit, je crois.
Hein, c'est ça.
Qui sont dans le coin de Pau, par là, et
Un jeu de mots, donc ça s'écrit I-N Et le chiffre.
Elle est un 8 après. Voilà, c'est... Et qui publie ou qui ont une jolie collection qui s'appelle Polaroid aussi.
Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est l'alphabet du polar, 26 histoires inédites. On peut dire que Pouilly et Villard avaient déjà donné dans l'échange un peu ping-pong justement. Hein,
oui, avec je crois qu'il y a trois, en rivage
noir, oui, deux, trois.
Mais il y a trois livres chez Rivage qui sont parus comme ça, ou avec à chaque fois une contrainte différente, où chacun écrit une nouvelle qui répond à l'autre, ou qui répond, où chacun s'empare d'un thème qui a été choisi par l'autre et qui n'est pas forcément son thème de prédilection. Un exemple criant, c'était par exemple Marc Villard obligeant Jean-Bernard Pouilly à écrire sur le jazz qu'il est censé détester, voilà, enfin, bon, qui... etc.
Alors donc beaucoup de choses, hein, surfer sur la vague noire, roman noir et surf, l'injustice faite à Claude Klotz, un article intéressant de Jérémy Guez, hein, sur Claude Klotz, alias Patrick Covin. Toi, tu signes une rencontre avec Dominique Delahaye, on en a parlé, hein, avant les vacances, auteur dernièrement d'un
poulpe,
Simonien.
Voilà.
À noter aussi Portfolio sans dessus dessous. Donc le 19 mai dernier, hein, je lis la présentation de cet article. Robert Ménard, le maire FN de Béziers, a interdit par décret municipal d'étendre le linge aux balcons et fenêtres des immeubles visibles des voies publiques, sauf entre 22h et 6h du matin. Et donc ça a inspiré trois photographes, hein, qui ont réalisé une série de photographies en contrepoint.
Voilà, et on a choisi de publier certaines de leurs photographies qui sont prises aussi bien notamment à Marseille, mais aussi à Lisbonne, mais aussi...
Il y en a une qui est pas mal. Hein,
c'est qui montre à chaque fois de belles manières... du linge à des fenêtres. Et
moi, j'aime bien celle intitulée Série Noire à Burano en Italie. Hein, c'est pas mal.
Oui,
ça.
Tout à fait. Tu as raison.
Alors, dernière chose dans ce sommaire sur laquelle nous allons nous arrêter un petit peu plus longtemps, c'est une conversation entre Jeanne Guyon, qui est... rédactrice en chef.
Et la rédactrice en chef.
C'est ça, de 813.
Oui, absolument.
Voilà. Et donc, conversation avec Nicolas Mathieu. Donc, oui. Nicolas Mathieu qui a signé un roman, un premier roman, juste avant l'été. Hein, ça devait être il est sorti, je pense, au mois d'avril, au mois de mai, peut-être, hein, aux Animaux la guerre. Mm-hmm. Donc, dans la collection Actes Noirs chez Actes Sud. Donc, un petit mot, Hervé, sur cette... Donc déjà, pourquoi avoir choisi Nicolas Mathieu, qui est quand même bien mis en avant dans ce numéro ?
Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que c'est évidemment le rôle de 813 de faire des dossiers sur Léo Mallet, Jim Thompson ou d'autres, ou voilà, mais c'est également le rôle de 813, on considère ça, d'essayer de repérer, autant que faire se peut, des auteurs quand ils émergent et qu'ils sont tout de suite particulièrement marquants dès un premier roman. Et c'était alors là le cas pour Nicolas Mathieu, qui est un vrai coup de cœur, que je crois d'ailleurs nous partageons.
Oui.
Aux Animaux la guerre, je sais que Jeanne Guyon, dès qu'elle l'a lu, moi aussi, ça a été, on s'est rendu compte qu'on était quand même en face d'un livre qui allait réellement compter. Moi, côté Harry, Nouveau Français, c'est pour l'instant mon très grand coup de cœur de cette année. Voilà. Comment dire, tu dis quelques mots sur le livre puisque tu le connais tout aussi bien que moi.
Oui, donc c'est ce qu'on appelle Hein, du roman noir, il le dit lui-même, hein, Nicolas Mathieu, on va dire du roman noir social. A-t-on besoin d'ailleurs d'ajouter social à un roman noir? On peut se poser la question. En tout cas, donc une usine qui ferme, une ferme pas très nette hein, aussi, un lycée professionnel où l'on s'enlise, et c'est rare. Très très rare de lire dans les romans des histoires ou des séquences qui se passent en lycée professionnel. Hein. Les lycées où on prépare des CAP, des bacs professionnels, c'est assez rare et donc c'est à noter. Il y a des femmes que l'on marchande, il y a un délégué du personnel qui fait des extras, il y a beaucoup de choses dans le roman de Nicolas Mathieu. Il y a aussi un chien bien trop gentil, des caïds, du crime bien caïds, des marchandises qui font planer, une Renault 8 Gordini pour rêver, et un plan social comme testament. Alors, il y a aussi une DRH aussi belle que peau de vache, une inspectrice du travail encore belle et sacrément coriace.
L'inventaire... Ce qui est très intéressant comme personnage, là
tout
aussi.
À fait, l'inventaire,
Le fait d'avoir mis ces Rita, voilà, dont on va pouvoir croire, d'ailleurs, c'est aussi la... qui est très intelligent, on va revenir sur la structure, mais on peut croire que c'est ça va être l'héroïne du livre, quand elle apparaît, un peu comme, entre guillemets, l'héroïne du livre de Les visages écrasés de Marin Le Dain était une médecin du travail. Or, c'est plus complexe que ça.
Il y a
le personnage qui joue leur partition dans le roman de Nicolas Mathieu.
Oui, il y a effectivement beaucoup de personnages. Hein, l'inventaire pourrait se poursuivre un temps, le roman de Nicolas Mathieu, dont il faut quand même le dire, le prologue nous entraîne à Oran en 1961. C'est peut-être histoire de nous dire que la vie, c'est pas du cinéma.
Voilà, il y a aussi l'Algérie, le poids de l'Algérie, le poids que cette histoire particulière pèse sur un racisme bien particulier en France, et y compris en milieu, entre guillemets, des petits blancs, enfin bon...
Effectivement, un roman qui foisonne de cette vie, hein, qui déraille alors qu'on pouvait l'imaginer toute tracée. Là comme ailleurs, les boîtes ferment, puisqu'on est, il faut le dire, hein, dans un coin paumé des Vosges, c'est une entreprise, un équipementier automobile qui ferme, et les ouvriers, les salariés s'en aperçoivent quand ils arrivent un matin et que une machine, une grosse machine a disparu.
Une grosse machine a disparu, et ce qui est, je crois, un des grands talents de Nicolas Mathieu, dont il est très clair que il connaît sa région.
Connaît sa région et il connaît le monde de l'entreprise, puisque, c'est ce qu'il explique dans la conversation, dans l'article, dans l'interview. Il a notamment exercé le métier de greffier pour les comités d'entreprise.
Et voilà, tout à fait.
Notamment à l'occasion de conflits, de fermetures, d'annonces de suppression de postes. Donc, il sait de quoi il parle et on le sent.
Il sait de quoi il parle. Il parle de ses vies ordinaires, du fait que de ce que la crise brise chez les hommes, les femmes, les adolescents, de l'ennui qui règne dans ces des régions qu'à part les choses que tu as racontées, la désertification saisie et puis il le fait d'abord sans affect, ce qui est une chose à mon avis très appréciable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gentils et des méchants, enfin,
c'est pas du tout manichéen, et c'est un roman, hein, puisque on évoque cette particularité, mais ce n'est pas un témoignage, hein. Un roman noir, et donc il y a des caïds,
il y a des activités tout à fait terrifiantes.
Moi, ça m'a fait penser, Hervé, à un livre que tu connais, Classe laborieuse, classe dangereuse, hein, de Louis Chevalier. Bon, même si c'est l'histoire de Paris, me semble, au 19e siècle, on est là-dedans, quoi. Hein, à partir de quand, ça peut basculer.
On, Voilà, ça peut tout à fait basculer tout le temps. C'est un livre qui parle de la violence sociale, comment les vies ordinaires sont justement happées par cette vague, dans cette rafle dans laquelle il faut choisir son camp, et où la violence sociale devient la violence tout court. Et il y a ce qui est intéressant, ce que Jeanne Guyon, qui l'interviewe, fait remarquer, c'est-à-dire cette narration, cet éclatement, cette narration en vignette, où on ne se perd pas du tout, mais qui va être une manière de... Alors, tout se rejoint, hein, on ne perd pas le fil, mais de faire vivre tous ces personnages, ce qui fait que, justement, ce ne sera pas porté par une sorte de héros ou anti-héros, enfin bon... Voilà, et ça, c'est quand même tout un talent, avec des personnages très différents, y compris, je trouve, qu'il y a aussi ce côté assez prodigieux de se mettre dans la peau de gens que forcément Nicolas Mathieu n'est pas, et notamment je pense aussi aux deux adolescents Jordan et Lydie qui sont
lycéens en lycée professionnel.
Les lycéens de ce lycée professionnel dont tu parlais, et qui sont également deux beaux personnages, voilà.
Des personnages un peu à la Bruno Dumont, quasiment.
Eh ben oui, tout à fait. En faisant le raccord.
Aux animaux.
Voilà, et tout ça, il me semble que ça fait vraiment un roman noir qui sort de l'ordinaire, et qui est profondément original, qui a une écriture forte et vraiment une structure,
Aux animaux, la guerre de Nicolas Mathieu à Actenoir. Je pense qu'on va reparler de ce livre.
Ici et ailleurs, on va continuer à en parler.
Alors on fait une petite pause musicale et on rend hommage à quelqu'un qui est mort en juillet. Je sais que c'est quelqu'un que tu apprécies aussi, Hervé.
Absolument, salut à l'albinos.
Voilà, Johnny Winter. Malheureusement, Johnny Winter, Main Town Blues, une composition de Johnny Winter dans un live Johnny Winter Hand, le disque sans doute le plus célèbre de Johnny Winter. Oui. Il y a beaucoup de reprises, mais là on a choisi donc une composition de l'albinos du blues. Alors Hervé,
et Johnny Winter à Deep Winter, c'est cela.
Voilà, mais bon, Hervé, Bruno Dumont et Nicolas Mathieu et 813, le Crimi, nous ont inspiré. Il nous reste malheureusement qu'une petite minute. Donc, le lien entre Aux animaux la guerre et Deep Winter, hein, dont nous voulions parler, et aujourd'hui, on y reviendra peut-être sur ce livre aux éditions Gallmeister, c'est l'hiver.
C'est l'hiver, effectivement, c'est le froid, c'est aussi... là, tu parlais de la ferme dans les Vosges. c'est aussi là le fait que ça se passe dans une ville minuscule de Wyalusing.
Voilà, c'est ça, en Pennsylvanie. Moi, j'étais surpris parce que Pennsylvanie, oui. On s'attend plus de l'urbain.
Hein, eh bien oui, et pas du tout. 379 habitants, plutôt... ce que des gens d'une manière un peu méprisante des urbains appelleraient un peu voilà bourgade de Pecno et puis c'est une histoire c'est l'histoire terrible de il y a un personnage qui s'appelle Danny et qui est un personnage de 40 ans 120 kilos et qui après un terrible accident est resté c'est un peu le simple d'esprit,
voilà,
qu'on appelle l'idiot du village.
Voilà.
Et il y a la seule qui faisait attention à lui, une serveuse, Mandy, qui est assassinée. Et évidemment, il va être le bouc émissaire idéal pour cela. Et notamment la cible. D'un adjoint du shérif, pervers, Sokowski, qui est pervers, brutal, corrompu, voilà, difficile de résumer tout
ça. Oui,
cela.
Parce que c'est l'occasion pour l'auteur hein, de dresser aussi une galerie de portraits impressionnante hein, de ces habitants du milieu rural américain, de l'Est américain, très dur, quoi, en fin de compte.
Voilà, ça va être un roman très noir, assez dérangeant, qui va très loin, justement, dans une violence, là aussi. Et en même temps, je crois que c'est un premier roman.
Oui, premier roman, oui.
Et c'est un roman avec lequel, Deep Winter, de Samuel Gailey, avec lequel déjà Gallmeister nous avait offert l'an dernier... c'était Pike, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui. Oui.
Voilà.
Oui, des découvertes très intéressantes hein, chez Gallmeister. Donc, c'est la collection noire. Alors, je sais que Oliver Gallmeister, il a un regret, c'est d'avoir créé une collection noire, hein, parce que pour lui, il n'y a pas de différence entre noir, blanc et tout ce qu'on veut, quoi. Mais en tout cas, encore une fois, Gallmeister nous fait découvrir un sacré roman.
Absolument.
Voilà, donc
sur le versant américain, c'est une belle découverte de la rentrée.
Deep Winter, donc de Samuel Gailey. Toi, tu dis comme ça, t'enlèves le W qui est entre le prénom et le nom. Et
c'était pour aller vite.
Oui, tu as raison. Hein, donc, aux éditions Gallmeister. Voilà. Eh bien, c'était Variation en noir sur Radio PFM dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières et en particulier avec son président Hervé Delouche. Rendez-vous dans un mois, fin octobre, pour d'autres explorations du noir et peut-être, Hervé, en particulier, un retour sur les trophées 813 2014 qui vont être décernés, si je ne me trompe, à Pau le week-end du 3 octobre.
Tu ne te trompes absolument pas.
Voilà, donc on en reparle en octobre. Oui. Au revoir Hervé, merci.
Au revoir et à la prochaine, avec plaisir. Bonne journée. I'm supposed to go. It's consistent, but it's too persistent. I wouldn't know.